tombe sur eux une personne folle et faite de trous noirs. La chose semble comme Yao. Galien fait de grands gestes. Philippe est apeuré. Et d'un geste brusque, Galien fait tomber la chose à terre. Il regarde ce que c'est. Il voit avec effroi que c'est un cadavre avec des bouts de chair sur les os, recouvert d'une robe noire. Qu'est-ce que c'est ? Philippe lui dit. J'aime pas du tout ça. Il faut s'en aller, de suite. Galien lui dit. Moi aussi. Et ils continuent leur chemin, si l'on veut. Au bout du couloir se trouve une porte. Ils vont l'ouvrir. Et se trouve dans un puits, au fond d'un puits, où il y a une échelle. Galien lui dit, montons, nous verrons bien. Et il monte l'échelle en métal. En haut se trouve une plaque en métal. Galien la soulève. Elle tombe à l'extérieur et ouvre un passage. Elle donne à l'intérieur d'une pièce. Galien regarde, Philippe aussi. Ils entrent dans la chambre. Cette pièce est une chambre meublée en campagnard. Elle semble normale. Il y a deux places, armoire, chaise, table, fauteuil, et une fenêtre et une porte. Galien regarde tout ça. Galien va à l'armoire. L'ouvre. Il y a du linge de maison, des costumes noirs et une robe noire. Ouvre le tiroir de la table de nuit. Rien. Ouvre un autre tiroir, il y a une seringue et des fioles. Va vers le lit. Il voit que le lit a des sangles en cuir, comme pour attacher une personne sur le lit. Philippe retourne à l'armoire, l'ouvre, passe ta main dans l'armoire et on trouve un cahier, la couverture de toile cirée noire. Regarde. Garde-le, nous le lirons. Quelque chose me dit que nous avons trouvé des choses importantes. Cache-le sous ta chemise. On ne doit pas nous le prendre. Regarde encore s'il n'y a pas autre chose à prendre. Philippe regarde, mais ne trouve rien. Galien demande, qu'est-ce qu'on fait ? On sort par la porte ? Philippe lui dit, allons d'abord voir à la fenêtre. Et ils vont vers la fenêtre. Ils ne voient que des branches d'arbres. On dirait que la maison est entouré d'arbres. Ils vont ouvrir la porte. Et sont sortis, se trouvent sur un petit palier qui donne à des escaliers. Ils descendent des escaliers en évitant de faire du bruit. Tout à coup, leur apparaît un homme, un vieil homme grand, sec, cheveux blancs, habillés d'un vieux costume noir, étriqué. Ils sont surpris, ils se regardent, l'homme leur dit, Je ne savais pas que vous allez avoir de la visite. On me dit jamais rien. Descendez. Ils descendent. Arrivé vers l'homme leur dit « J'ai rien préparé, je ne savais pas. Vous n'êtes pas comme les autres, vous. Allez vous asseoir. » Les escaliers donnent dans un living, genre campagnard, en deux parties, une partie salle à manger et l'autre salon. L'homme leur indique des fauteuils. Galien lui dit « Nous n'aimerions pas vous déranger et partir de suite. » L'homme lui dit « C'est pas très réglementaire tout ça. Vous venez pour la chose ?»« Oui. » »« Bien, il faudra attendre la nuit pour qu'on vienne vous prendre. » « Vous êtes nouveau ?»«
Oui. »«
Je ne comprends pas. »
Gaïa lui demande. « Quoi ?»«
Tout ça. On me dit pas grand-chose ici. »« Je garde. C'est ce que je fais. » »« Et il vient des gens. Des tas de gens. »
Gaïa lui demande. « Pourquoi faire ?»«
Pour se purifier. » Mesurer l'espace, voir la voie à prendre.
Et où vont ces gens ?
L'homme aux les épaules et dit, comme si vous ne le saviez pas.
Galien lui dit, on aimerait c'est vous l'entendre dire.
L'homme lui dit, il ne faut pas le dire. Mais il doit se passer de grandes choses. C'est la fin d'un monde. Nous allons vivre ailleurs. Il faut faire tout ceci. Tout ce qu'il doit. Mais j'ai été choisi parce que j'étais perdu. Vous pensez bien, avec tous ces crimes, ce que j'aime, moi, ce sont les gens. J'aime les posséder.
Galien se dit, c'est peut-être un fou.
Le vieux poursuit, avec les yeux, on croit voir ce que l'on voit. Mais en réalité, l'on ne voit pas ce que l'on voit. Car l'œil ne voit pas, il est atrophié. Qui vous dit que ce que vous voyez est la réalité ? Qui vous dit que le monde est réellement comme ça ? Peut-être est-il autrement, ou que tout n'est qu'illusion ?
Il se penche contre le visage de Galien et lui dit
« Comment suis-je ? Qui suis-je ? » Peut-être que personne ne le sait. Et vous, qui croyez-vous être ? Vous, vous croyez, vous voyez, d'après vos sens. Et si vos sens étaient déréglés ? Oui, si les sens étaient incapables de vous montrer la réalité, ils ne pourraient pas vous dire qui vous êtes, et vous ne le saurez jamais. Qui vous êtes. Le chien croit être comme son maître. Il croit que son maître est comme lui, un chien. Mais le chien se trompe et il ne le sera jamais. Il croit toujours que lui est comme son maître et se croira un humain et non un chien. Alors, pourquoi pas vous ? Croyez comme vos maîtres, mais qui êtes-vous et que sont vos maîtres que vous croyez connaître grâce à vos sens? Qui sont-ils en réalité? Qu'est-ce qu'un homme? C'est ce que vos sens vous disent que c'est un homme, mais en réalité, vous êtes peut-être comme un chien qui voit les hommes d'après leur sens et ce qu'il est, mais il ne peut savoir vraiment qui est un homme. Alors vous, moi, c'est peut-être la même chose. Nous sommes peut-être tous enfermés dans un monde à soi. Et si chaque sens de chaque être est particulier, et aucun ne montre les choses, ne le définissent
de la même façon ou qu'un être ne verrait le monde que comme les autres. Pourquoi sommes-nous tous faits différemment? Les sens peut-être sont différents aussi. Et pourquoi voulez-vous que des êtres différents puissent avoir des sens identiques? En réalité, nous sommes tous enfermés en nous-mêmes. Et le cerveau a le pouvoir de nous montrer le monde comme il le désire ou comme il peut, suivant ses limites. La vie n'est peut-être qu'un songe, rempli de vide, de choses qui n'existent pas. Les choses ne sont que des atomes de matière. Et, normalement, nous devrions les voir comme une masse qui bougerait d'une façon infinie. Tout le temps, infini, tout le temps. Gaïa lui dit, alors comment faire pour voir la vraie vie? Le vieux lui dit, avoir un sens qui va au-delà de soi. Mais la vraie vie, c'est peut-être un vide, que du vide. Et nous sommes du vide, remplis d'atomes. Il n'y a peut-être rien à voir. Qu'une masse vide qui où habitent des milliers et des milliers d'atomes, de neurones, de neutrons qui tournent dans tous les sens, cherchant à se coller ou à s'éloigner. Et de temps en temps, ça explose et laisse un vide qui est rempli de nouveaux atomes, etc. C'est peut-être ça l'endroit du décor. C'est peut-être très beau, à moins. Il vaut peut-être mieux l'illusion. Mais l'homme recherche toujours la vérité, et en la cherchant, il risque d'aboutir au néant, à ça. Il aura perdu ses illusions d'être un être. Galien lui dit, si l'homme recherche tout ceci, c'est que nous voyons tous la même chose. L'homme lui dit, c'est vous qui le pensez, d'après ce que vous voyez, entendez. Mais est-ce la vérité, ce que vous voyez, entendez? Philippe lui demande, et que faisons-nous ici? Le vieux lui dit, vous êtes venu, c'est pour passer, vous devez passer. Mais pourquoi toutes ces questions? Qui êtes-vous vraiment? Vous n'êtes pas des leurs. Galien lui dit, si. Et je suis un des grands. Le vieux lui dit, c'est si dur de vivre comme ça. Galien lui dit, nous aimerions sortir un peu. L'homme lui dit, sortez, moi je ne le peux. Galien et Philippe vont vers la sortie de la maison. L'homme les laisse aller.
Il ouvre la porte. Il sort.
Il se trouve dans une cour de ferme. Tout à coup, il voit arriver une voiture. C'est celle de Galien. La voiture s'est arrêtée devant eux. Le chauffeur sort de voiture et leur ouvre la portière arrière. Galien lui demande, comment saviez-vous? Le chauffeur leur dit,
on m'a dit d'aller vous chercher. C'est ce que je fais. Voilà.
Galien et Philippe entrent dans la voiture qui se met en route. Ils traversent une longue forêt. Galien demande, où sommes-nous? Le chauffeur lui dit,
dans un endroit où il vaut mieux pas s'aventurer. qu'est le vieil homme de la maison.
Un original, un pauvre homme que nous gardons par charité, était chercheur dans un de nos laboratoires et un jour, il y a eu une explosion. Il est tombé sur la tête. Voilà tout. Il n'y a pas de secret. Tout est simple. Il suffit d'ouvrir les yeux pour comprendre. Pas de choses que l'on cache qui en cache une autre. Galien lui demande « Pourquoi dites-vous cela ?» Chauffeur lui dit « Parce que les jeunes cherchent toujours quelque chose de plus. Aller au-delà, derrière le miroir. Rimbaud a fait des poèmes. Mais lorsqu'il a été adulte, il a arrêté et décidé de voir les choses simplement comme elles sont. Il ne faut pas se poser de questions. Tout est simple. Tout est simple. On ne se pose pas de questions. Ils arrivent dans le parc. La voiture s'arrête devant le perron. Le chauffeur leur ouvre la portière. Ils sortent et vont rentrer dans le château. Galien dit à Philippe, « Allons-nous changer, nous sommes pourris. » Et ils montent à leur chambre. Se déshabille, prennent leur douche, s'habillent. Ensuite, Galien va dans la chambre de Philippe. Entre. Philippe est en train de finir de s'habiller. Galien s'approche de lui. Galien dit, « Je suis crevé, et toi ? Moi aussi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ?» Philippe lui dit, « C'est étrange, mais comment savoir ? Tu as le cahier ? Oui, je l'ai mis sous mon matelas. » Galien lui dit, « La femme de chambre risque de le voir. Il vaut mieux le cacher ailleurs. » Il va prendre le cahier sous le matelas, réfléchit, mettez-le derrière le tableau. Il va prendre le tableau qui est sur le mur. C'est un tableau qui représente un paysage de campagne. Le pose à l'envers sur une table. Tu as du scotch? Non. Va chercher dans mon bureau pour le fixer sur le tableau. Philippe sort de la chambre pour aller dans le bureau de Galien chercher du scotch. Thank you.
retourne à un champ, donne le rouleau de scotch à Galia. Galia fixe le cahier sous le tableau, derrière le tableau, je veux dire. Puis, il remet le tableau en place. Nous le lirons ce soir. On a frappé à la porte. Entrez. Entre d'Amphore.
Monsieur, je m'excuse de vous déranger, mais j'ai à parler à Monsieur Diap.
Je vous écoute,
d'Amphore lui dit. Votre expédition de cet après-midi est de très mauvais goût. Vous ne devez plus faire cela.
Galia lui dit. Justement, j'allais vous demander des explications.
D'Amphore lui dit. Il n'y en a pas, ou si peu.
Je tiens à savoir ce que cache tout ceci.
D'Amphore lui dit. Vous l'avez vu, un fou furieux que l'on garde par charité.
Et ce passage souterrain?
Un vieux passage fait par les occupants du château pour s'échapper des révolutionnaires.
Et cette espèce de chapelle?
Rien. Un ancêtre un peu franc-maçon.
Et le cadavre?
Sans nul doute, une personne égarée.
Vous avez réponse à tout.
Comme vous le voyez, il n'y a aucun mystère. Rien d'étrange. Il faut ouvrir les yeux et voilà. Ne jugez que ce que l'on voit.
Galia lui dit. Pourtant, moi, je crois qu'il y a autre chose.
Je ne vois rien.
Galia lui dit. C'est que vos sens ne sont pas les miennes que les miens.
L'enfant lui dit. Vous posez trop de questions, ça rendra malade.
Galia lui dit. Pas assez pour me faire enfermer. L'enfant lui dit.
Personne n'a le droit de vous enfermer.
Galia lui dit. Ah oui, je sais, je suis l'élu.
De quoi?
L'enfant lui dit.
Un surnom gentil, qui veut dire président. Vous n'allez tout de même pas en vouloir à votre personnel pour si peu.
Galia lui dit. Bien, vous avez autre chose à me dire?
L'enfant lui dit. Non, ne vous occupez surtout pas de l'homme que vous avez vu. Secret défense. Il détient un secret, une formule que beaucoup d'États aimeraient avoir. Alors, laissez-le tranquille.
Et il sort de la pièce.
Philippe lui dit. Mais pourquoi est-ce que tu ne mets pas à la porte celui-là?
Galien lui dit. Parce que je ne le peux pas.
En réalité, je suis, pour ainsi dire, un symbole. Mais c'est lui qui commande.
Philippe lui dit. Laisse tout tomber et retourne à Lyon.
Galien lui dit. Ça ne servirait à rien. Je suis l'élu et un élu l'est à vie. Il reviendrait me chercher ou resterait constamment près de moi.
Galien lui dit. Alors tu es leur prisonnier?
Oui, si tu veux, comme un dieu est prisonnier des dogmes, de la religion et des prêtres.
Va à la police,
Galien lui répond. Elle me rirait au nez, et puis elle est avec eux.
Philippe lui dit. Tu aurais dû refuser cet héritage.
Cela n'aurait rien servi. J'aurais tout de même été leur élu.
Mais qui leur a dit que tu étais leur élu?
Je ne sais pas.
Et pourquoi es-tu leur élu?
Je ne sais pas pourquoi.
Allez, faisons-nous servir un repas. J'ai faim et je suis fatigué.
Et ils sortent de la chambre.
Galien va frapper à la porte de la chambre de Philippe.
Entrez.
Il entre. Philippe est déjà au lit. Galien lui dit :
J'aimerais pouvoir venir lire le livre, le cahier, je veux dire.
Il va décrocher le tableau. Puis, il enlève le scotch pour prendre le livre. Et va s'allonger sur le lit, à côté de Philippe. Et ouvre le cahier.
La première page est marquée Les sept soleils. C'est écrit à l'encre bleue, à la plume. La deuxième page y a décrit Lorsqu'on a plongé dans la création, on n'a plus de repos. L'écrivain est malade de ne pouvoir écrire. Le cinéaste de ne pouvoir faire des films. Le cerveau est continuellement en ébullition. Il n'y a plus de repos. Pour le scientifique, c'est la même chose. C'est pour cela que sa quête n'a pas de fin. Plus il trouve, plus il a trouvé. Peut-être est-il tombé dans une spirale mortelle. La recherche du savoir ou de l'art, de la création, sorti l'homme du paradis perdu. Car en se lançant dans cette quête, il ne sera jamais en repos et s'éloigne de la vie simple. Puis le livre parle d'une race prodigieuse venue sur terre, les hommes bleus. Pour dominer les hommes, ce sont les dieux qui les ont fait venir sur terre. Ils sont allés en Égypte, en Inde, Grèce, puis sont allés à Rome. Après, par Troie, ils sont allés en France, puis se sont dissous chez les Nérovingiens, ensuite les Capétiens, puis se cachent et attendent des jours meilleurs. Galien ne comprend pas tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que la race prodigieuse a passé dans plusieurs peuples pour civiliser le monde. Philippe lui dit, qu'est-ce que ça raconte? Galien lui dit, je ne sais pas, peut-être une légende. Philippe lui dit, c'est mal parti. Oui, incompréhensible. Il voit une page, 3 égale 3. L'on a tué le dernier Nérovingien. Galien dit, ce livre a été écrit par un malade, un fou. Il tourne les pages et dit, le fluide de la race prodigieuse a été mélangé, peut-être perdu au milieu des hommes normaux, par des mariages. Mais l'on peut retrouver le fluide et refaire vivre la race prodigieuse grâce à l'ADN, car l'ADN de la race prodigieuse est resté indélubible. Il est simplement mélangé avec les autres. Jeune Tout est le chef des puissants, parce qu'il est des nôtres, des élus. La lutte du paradis perdu, c'est faire des hommes supérieurs. Galien soupire et dit à Philippe, je ne crois pas du tout à cette histoire. C'est une affaire rêver les gens. Tout à fait stupide. Philippe lui dit, et toi dans tout ça? Galien lui dit, moi je suis le pantin. Leur but, c'est de créer des hommes supérieurs en recherchant dans l'ADN l'élite. Philippe lui demande. « Que comptes-tu faire ?»«
Je ne sais pas, rien pour le moment. Mais pour moi, leur croyance, c'est du conte à dormir debout. »
Il reste quelques jours, mais comme ils ne peuvent rien faire car ils se sentent surveillés, ils décident de partir, d'aller ramener à Lyon Philippe, puis Paris. Durant leur séjour, ils n'ont guère eu le temps de se parler intimement. Leur découverte les a intrigués. Sur la route qui les ramène, Philippe est triste et lui dit « Nous n'avons pas pu faire ce que nous voulions. » Galien lui dit « Viens avec moi à Paris. » Philippe lui dit « Non, ma mère serait furieuse que je parte comme ça. » Galien lui dit « Je reviendrai te voir le mois prochain. » Et il lui dit à l'oreille « Je vais relire le cahier et mieux l'étudier. » Philippe lui dit « Tu ferais mieux de te laisser tomber. » Galien soupire. Ils se sont séparés à Lyon. Galien est venu à un coup de vent voir ses parents et est reparti à Paris. Les jours passent. Laboratoire de Riquin, l'ordinateur Pontois commence à être en état de marche. On lui pose des questions.
Qui êtes-vous ?
Il a répondu :
Ferdinand Pontois.
Vite, Riquin téléphone à Danfort.
Qui lui dit j'arrive tout de suite.
Et Riquin le mène dans la salle des ordinateurs.
Entrez. Il fait entrer dans la salle où se trouve l'ordinateur Pontois.
Les hommes s'affairent, un à l'ordinateur au clavier, un qui se trouve vers les cellules nerveuses du cerveau pontois, qu'il balance de rayons laser sur toute la surface, et un autre du sang. Danfort demande.
J'ai réussi à trouver les nerfs sensibles de l'intelligence et celui de la mémoire.
Celui qui est vers les cellules du cerveau lui répond.
Non, monsieur, malheureusement, nous faisons ça au hasard. Nous ne savons pas quelle est la partie que l'on touche et qui se met en route.
ces bouts de cellules de nerfs sont tellement minuscules qu'il est difficile à voir. Malgré le télescope, microscope électronique, mais du moment que ça marche, c'est déjà une bonne chose. Rika lui dit, pouvez-vous, monsieur, avoir l'honneur de lui poser la première question ? Danfort, ému, va vers le clavier de l'ordinateur et marque sur l'écran. Monsieur Pontois, pouvez-vous nous dire la première chose urgente à faire pour sauver le monde ? La question sur l'ordinateur est décodée par l'ADN pour être envoyée aux cellules du cerveau. Une minute de silence. L'on attend. Rien. Puis, l'ordinateur se met en route. L'ADN a reçu la réponse et traduit. Monsieur, la première chose à faire pour sauver l'humanité, c'est l'épuration de l'eau avec ma formule. Danfort n'en croit pas ses yeux. Il dit, c'est vrai. C'est bien lui, Pontois, qui a répondu. Rican lui dit, mais oui, monsieur. Alors c'est un miracle. Rican lui dit, non, c'est l'ADN. Nous avons l'ordinateur le plus puissant du monde, capable même de dialoguer avec les morts. La France est sauvée. Nous avons en un rien de temps dépassé les Japonais et les Américains. Danfort lui dit, notre groupe est le plus puissant du monde. Il souffle et dit, je vais encore poser une question. Allez-y, monsieur. Danfort tape. Quelle est votre formule que vous mettez dans l'eau épurée? Une minute de silence et la réponse arrive. Cette formule est top secret défense. Je ne la donne pas à n'importe qui. Seul l'ancien président de la République mort le savait. Danfort dit, malgré qu'il soit mort, il a un sacré caractère et un sens des responsabilités.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.